Je ne sais pas si je vais. En tout cas, un certain nombre de choses qui viennent d'être évoquées, je vais y revenir. Donc, ça va me permettre d'aller peut-être un petit peu plus vite. Mais c'est ce que j'entendais, moi, par repolitiser, c'était de faire en sorte que chaque individu, contrairement à l'idée générale, puisse s'approprier en fait d'une façon critique tout ce qui est dit sur le changement climatique. Et que peut-être à partir de là, on pourrait reposer le soi-disant problème climatique autrement et peut-être sortir de l'inefficacité que Stéphane a montré tout à l'heure. Et donc, j'avais appelé ça comme ça, mais il y a un certain temps, donc la rhétorique du changement climatique et la présupposition d'un climat idéal. Quelque chose qui allait dans le sens de la question qui a été posée ce matin, à savoir, le mot climax, il a été forgé à partir de climat, et là, aujourd'hui, ce qu'on voit avec le changement climatique, c'est une sorte de climax. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Alors, je vais vite là sur ce début-là, c'est quoi la rhétorique? Pour moi, c'est tout un système, un ensemble de techniques qui vont permettre de faire passer un message pour persuader. Et moi, ce que je constate, c'est que le message est bien passé, mais que ce que j'aimerais, c'est que, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de personnes reviennent sur qu'est-ce qui a permis de construire ce message, comment il est construit, et puis se l'approprie jusqu'au fond. Et donc pour ça là, et c'est juste ce dont je vais parler là dans la bonne demi-heure qui m'est donnée, c'est d'une part les discours officiels, donc les rapports du GIEC, je vais utiliser des citations, des graphes, etc., que je vais décortiquer, j'espère avoir le temps avec vous, les résumés pour décideurs, les textes des COP, les plans climat, le dernier, le rapport Jouzel, par exemple, ce que j'appelle rapport Jouzel, c'est-à-dire le plan climat national de 2015. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'images là-dedans, j'ai pris des documents labellisés, j'ai dit « voir nobelisés », donc vous voyez que ça va vers... voilà. Alors moi, qui suis climatologue, et qui était climatologue bien avant que n'émerge ce changement climatique, j'étais très, très, très surprise lorsqu'est apparu le premier rapport du GIEC en 90, parce que l'introduction ne dit pas ce que c'est que le climat. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sidérée. Je ne connaissais pas en science quoi que ce soit d'un article de recherche qui ne commence pas par définir l'objet auquel il s'attaquait. Voilà. Et ce n'est qu'à partir de 2001 que un glossaire est apparu dans lequel le mot climat est défini, et d'ailleurs... Bon, je vous ai mis là la définition. C'est, au sens étroit, on dit le temps moyen, et au sens large, climat désigne l'état du système climatique. Alors, bon, voilà, système climatique, ça veut dire ensemble, océan, atmosphère, biosphère, cryosphère, etc. Voilà. Ce qui est aussi très surprenant, c'est que cette espèce d'impasse sur la définition sur ce que c'est que le climat, par rapport à d'autres mots comme changement, changement climatique, alors je ne les ai pas cités là, mais il y a 5 définitions des changements qui sont données dans ce glossaire. C'est-à-dire que sur un certain nombre d'autres mots, il va y avoir avalanche de discours pour séparer les différents types de changements qui peuvent arriver. Ensuite, on a parlé, ça va me permettre d'aller un petit peu, d'aller rapidement. Alors, dans les changements, évidemment, l'essentiel de ce qui est traité, c'est changement anthropique persistant, voilà, de la composition chimique de l'atmosphère. Ce qui est, Stéphane en a parlé, c'est-à-dire que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992, dans l'article 1, dit bien qu'il faut faire une distinction entre les changements climatiques, c'est des citations ça, qui peuvent être attribués aux activités humaines, altérant la composition de l'atmosphère, et la variabilité climatique, qui a des causes naturelles. Donc, quand on parle de changement, chaque fois que le mot changement sera énoncé, ça voudra dire qu'on ne s'intéresse que à ce qui est lié à, aux activités humaines. Donc, déjà, c'est extrêmement curieux d'avoir, comme ça, d'emblée, défini le problème comme ça. Surtout qu'après, quand on va parler de gaz à effet de serre, je ne vois pas comment une molécule de carbone qui est dans l'air, on pourra dire celle-là ou de méthane, celle-là, elle vient de la nature et celle-là, elle vient de, d'une activité humaine. Et surtout que, bon, qu'est-ce que c'est la riziculture qui émet du méthane, bon, je ne sais pas, ou un étang, quelle différence il y a. Voilà. Alors, dans ces définitions, il y a des temporalités qui sont mentionnées. C'est important parce que on va y mélanger des temps très longs, quasi géologiques, hein, des milliers d'années, des millions d'années. La période définie par l'OMM comme la norme, c'est-à-dire la période de 30 ans, ça, c'est bien défini. Mais par contre, l'espace n'est pas du tout défini. C'est-à-dire qu'avec climat, on va donner des temporalités, mais on ne va pas donner d'espace. Ça va de soi de poser cette question. Alors, je vous assure que quand on est climatologue dans les années 80-90, voire avant, ça pose problème. Donc, je l'ai dit, une place énorme accordée à changement, le mot est récurrent. Et donc, je vous l'ai dit, tout à, la citation est à nouveau reprise là. Ce qui est intéressant, c'est, par exemple, l'apparition de la variabilité climatique. Ça aussi, c'est vraiment très surprenant, étant donné que dans les cycles de Milankovitch ou des choses comme ça, les variabilités connues, bon, c'est, ça peut être des variabilités à l'échelle de, des cycles de 11 ans, des cycles de 30 ans dans la circulation océano-atmosphérique, ça peut être des cycles de 100 000 ans, 40 000 ans, etc. Donc, réduire ça à là, c'est... Bon, c'est surprenant, disons, voilà, pour les causes naturelles. Ensuite, l'objectif, il était bien défini, c'est des guillemets, hein, stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique, donc je vais revenir sur ces mots-là, perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc, vous voyez, on voit bien que c'est les... Enfin, pour moi, le problème climatique, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, et tel qu'il est posé, c'est quelque chose qui est très simple d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être, à mon avis, c'est ça qui a fait son succès. C'est qu'il y a une cause au changement, les gaz des activités humaines. Le changement est dangereux, donc il faut se grouiller d'agir. Donc, c'est tellement simplissime. Que pour moi, c'est une sorte de caricature. Alors, je vais essayer de vous montrer que c'est pas seulement... ça peut s'appuyer, ce que je viens de dire, sur un certain nombre de choses. Et donc, en reprenant le système de la rhétorique, j'ai vu trois objets dans le discours qu'il faudrait décortiquer mieux. Les mots, les chiffres et les images. Et donc, c'est ce que je propose de faire avec vous. Voilà. Alors, d'abord... les mots amibes, les mots plastiques, ça c'est une définition d'Ivan Illich. Aujourd'hui on dirait plutôt des mots fourre-tout. Et pour moi, aujourd'hui, alors que Illich citait la crise, le suivi de la nature, etc., il y a, Jacques, tu en as parlé, développement durable, pour moi c'est un mot amibe, c'est-à-dire que on a essayé d'en mettre le moins possible dedans pour que tout le monde y mette ce qu'il avait envie d'y mettre. Et donc, c'est une sorte de valise. Et donc, tant que on en parle d'une façon très générale, eh ben, c'est comme, je sais pas, l'affaire Dreyfus, hein, tout le monde est d'accord. Mais quand on commence à creuser ce qu'on va mettre dedans, alors, probablement, les divergences vont apparaître. Et pour moi, le mot climat, on est très exactement là. C'est-à-dire que dans un dîner en ville, vous parlez climat, tant qu'on n'essaie pas de mettre quelque chose derrière... Tout le monde est d'accord, sauf que quand on commence à mettre des choses derrière, alors des choses précises, là il y a un problème. Voilà. Et donc, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce que c'était Sylvestre Huet, je vous ai mis la couverture d'un de ses livres qui, d'une certaine façon, oui, il y a une cacophonie climatique, ça c'est évident. Alors là, j'ai repris, quelqu'un m'en a parlé ce matin, une conférence que j'avais faite à la BLF, parce que j'avais analysé 32 livres qui portait sur le climat et qui venait de sortir, enfin qui était sorti dans les 20 dernières années, et j'avais essayé de voir si, d'une part, il définissait le climat, et d'autre part, en fait, implicitement, qu'est-ce qu'il mettait derrière. Bon, alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'au GIEC, jusqu'aux années 90, le climat, ça n'existe pas. Il y a des climats, et ça depuis l'Antiquité, à cause de la radiation solaire qui change en fonction des saisons, etc. C'est les météos, vous voyez, ça c'est un livre qui doit être sorti dans les années 80, fin de la décennie 80, début 90, écrit par des météos, on a bien les climats. Bon, et je ne parle pas des climatologues géographes qui, eux, ont toujours utilisé ce pluriel, considérant que on est dans quelque chose qui est éminemment changeant dans l'espace et dans le temps. C'est variable et c'est hétérogène. Et donc, avec la fin de la décennie 80, début de la décennie 90, et le mot est apparu au singulier. On a commencé à parler du climat de la Terre. Bon, ça c'est complètement nouveau, puisque ce mot n'avait jamais pratiquement été utilisé au singulier. Et il me semble que le singulier, puisqu'il va tendre vers l'abstraction, donc du coup, il va générer cette espèce de polysémie. Et donc les 32 livres que j'avais sélectionnés montraient qu'on pouvait... alors on mélangeait les causes et les conséquences, les états et les processus, les solutions. On pourrait dire ça va être... le bouquin de Klein, c'est... elle définit pas climat, mais on est complètement dans la justice. On a vu tout à l'heure des livres qui gouvernaient le climat, il est là. Donc là, on est dans de la géopolitique. Là, on est dans le carbone. Et là, c'est l'énergie. Là, c'est la catastrophe. Et puis là, c'est l'ingénierie. Donc, avec ce même mot, les livres n'ont rien à voir. Et vous pouvez aller chez un libraire, vous les prenez, vous commencez à feuilleter, vous voyez que tous affichent climat dans le titre, mais quand on regarde à l'intérieur, on ne traite pas du tout de la même chose. Voilà. Alors, ce singulier, il n'est pas neutre pour moi. Et c'est la même chose que quand on dit du changement climatique. Alors que on vous montre des cartes, des modèles climatiques où la température est en hausse de 6 ou 7 degrés dans les hautes latitudes et pratiquement constante dans la zone intertropicale, où seulement c'est les précipitations qui vont changer, comment est-ce qu'on peut dire du ? Comment on peut mettre ça au singulier, comment on peut envisager l'adaptation au bord de la mer, comme en montagne, etc. Tout ça qu'avec du singulier. Bon, donc la cause, c'est la cause du changement climatique, les gaz à effet de serre, pas de vapeur d'eau, pas de soleil, rien. C'est juste, donc on est dans quelque chose qui est binaire, simple, et le singulier, c'est l'abstraction. Donc du coup, c'est normal qu'on en arrive à des discours qui, moi, la première fois que... j'étais avec des Argentins parce que j'avais un programme de recherche en Argentine, qui sont arrivés à Paris et qui ont vu une manifestation où il y avait des banderoles « Sauver le climat », ils ont éclaté de rire. Parce que pour eux, sauver le climat, c'était rigolo, quoi. C'était présomptueux. Voilà. En fait, c'était comment c'est possible que des gens puissent croire qu'ils vont changer 14 milliards de kilomètres cubes d'air. Voilà. Et si on se pose vraiment la question, c'est on veut sauver le climat, mais de qui, j'ai mis de quoi, pour qui, pourquoi? Est-ce que, si vous posez aux mêmes gens qui sont dans la manif, je l'ai fait, qu'est-ce que vous voulez? Quelle température c'est l'idéal? 14? 13,5? 14,5? 15? Est-ce que c'est 350 ppm? 400 ppm? Voilà, est-ce que ce n'est pas du tout le climat du tout, alors à ce moment-là, mais l'équité entre les vivants que vous voulez, ou l'équité entre les humains, voilà, on a des réponses. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, pas possible d'avoir l'unanimité. Et puis de toute façon, il y en a qui, j'imagine, si vous aimez faire du ski, vous voudrez sauver les hivers neigeux. Et si au contraire, vous êtes un transporteur, c'est ce que j'ai mis en France, vous voudrez qu'on puisse passer les cols par tous les temps. Donc voilà, c'est quand même un problème... mais par contre, ce que je constate, c'est que ces idées-là, en général, elles ont percolé dans toute la société. Et pourtant, quand on continue, et elles associent quand même réchauffement et danger. Si ça se réchauffe, ça va aller mal, il va y avoir plein de problèmes, etc. Et là, je vous ai mis en bas une carte, on l'avait vu tout à l'heure, hein. En même temps qu'on fait passer ce message-là, et qui percolent, hein. Si on demande aux gens dans la population où est-ce que vous voudriez vivre, dans quel département à cause du climat, vous voyez le tropisme qu'il y a vers le sud. Et pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il y a du soleil, etc. Donc ça veut dire que par rapport à ces problèmes, on est tous un peu schizophrènes parce que effectivement, personne n'a envie d'aller dans le Pas-de-Calais. Donc entre les représentations qu'on a du changement climatique et les représentations du temps qu'il fait, etc., dans notre imaginaire, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est valable pour tous les Européens, sinon il n'y aurait pas des migrations d'Européens dans la troisième partie de leur vie vers le sud de l'Europe. Voilà. Alors, en même temps qu'ils sont singuliers, et ils sont globalisants. Alors, pour moi, là, c'est l'entreprise généralisée de gommage du politique. C'est-à-dire que on parle d'origine humaine, d'influence humaine sur le climat. Bon, moi, et humain, comme ça, toujours dans le singulier. Hein. Donc, pour moi, c'est un transfert. Il n'y a qu'une atmosphère. On est sur une seule planète, ça on l'a vu en image très belle depuis 69, et donc on considère qu'il n'y a qu'une humanité, et c'est le discours qu'on entend aussi, à savoir que tous les humains subissent et subiront les effets du changement climatique. Et on, sous-entendu, bon, on y vient quand même parce que les pays du Sud, j'allais dire, le font savoir, les vulnérabilités ne sont peut-être pas identique pour tout le monde, et donc tous les humains sont peut-être pas logés à la même enseigne. Mais dans la manière de rédiger, on est dans quelque chose qui est complètement apolitique. C'est un humain. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de lutte des classes. Tout à l'heure, on a vu un croquis, le graphique où on voyait apparaître les entreprises, mais c'est tout nouveau. Avant, bon, donc cette manière, alors qui passe avec l'humain abstrait, complètement abstrait, globalisant, c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est l'universalité, mais on va pouvoir compter. Alors on ne sait pas trop ce qu'on compte, hein, même si tout à l'heure tu as dit on sait maintenant comptabiliser ce qui est commis. Bon, est-ce qu'on sait la composition du kérosène, je ne sais pas, en 2030 ou 2050, au point de pouvoir dire un plein d'avions, ça va émettre tant? Je ne crois pas qu'on puisse le faire très sérieusement. Bon, je vais revenir sur ces problèmes de métrologie. Mais en gros, on en est arrivé à une tonne de CO2 émise par un K4 à New York parce que quelqu'un ne veut pas aller chercher son gamin autrement qu'en voiture. C'est la même chose que une tonne de CO2 émise par une vache qui sert à alimenter une famille en Asie du Sud-Est. Bon, donc moi, là, j'arrive pas à croire à ça. Ça m'a amené à me dire qui c'est cet anthropos. J'en ai marre d'entendre un humain, un homme. Voilà. Et l'anthropocène, pour moi, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que, à la fois, on se glorifie d'un renversement du rapport des éléments naturels qu'on subissait, puis maintenant, on va être capable de créer. Donc, comme on est beau, comme on est fort. Encore une fois, dans la vision d'un climatologue, hein, où l'atmosphère, c'est 14 milliards de kilomètres cubes. Donc, vous voyez, vous occupez un mètre cube, je ne sais pas quoi. Donc, bon, et aussi un discours culpabilisant, pour moi religieux. Enfin, je ne devrais pas dire ça, parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Alors, Jacques m'avait déjà dit que ce n'était pas la religion, ce que j'entendais. Mais, d'une certaine façon, vous avez mal fait. Il y a moyen de se racheter pour revenir à mieux. Bon, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est sur la faute et le rachat de la faute, et qui pour moi a une connexion avec la religion. Alors, j'avais mis jusqu'à la COP21 avec l'approche top-down qui a été évoquée tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on était toujours dans cette indifférenciation. Il me semble que avec la COP de Paris, au moins on peut penser tout ce qu'on veut des intentions affichées par les États, mais d'une certaine façon c'est une reconnaissance du pluralisme, alors qu'avant on cherchait une solution, la même pour tous, et hop, tous l'humain devait avoir la même manière de faire vis-à-vis du climat, quel que soit l'endroit où il vivait, etc. Voilà. Et alors, deux choses où la globalisation me semble être, a été remise en cause, pour moi, grâce aux pays en développement, parce que, effectivement, et dans la COP21, à toutes les pages, le mot développement y est, hein. Et puis l'autre chose, sur lequel j'aimerais bien que les philosophes et les gens qui ont fait de la philo réfléchissent, c'est sur cette idée de responsabilité commune mais différenciée. Pour moi, ça fait référence au colonialisme, mais je me dis, est-ce qu'un Allemand d'aujourd'hui est responsable d'Hitler ? Est-ce qu'un Nantais d'aujourd'hui est responsable des négriers nantais d'il y a quelques siècles ? Est-ce qu'un ouvrier qui travaillait dans les mines de charbon de Saint-Étienne ou du Pas-de-Calais est responsable de ce que l'entreprise pour laquelle il a travaillé l'a contraint à faire pour pouvoir survivre ? Ça, ça me semblerait être un problème, une manière de repolitiser le débat plutôt que de parler de responsabilité comme ça dans le vague. Voilà. Donc, pour moi, ces mots, ils gomment l'histoire des sociétés. Ils sont intemporels, ahistoriques. Même s'il y en a... c'est du Canada Dry, l'histoire. Hein. La révolution industrielle, elle est tout le temps là. Mais en fait, non. Le discours, c'est un climat chaud va poser problème. C'est un changement radical. Et ce changement radical va nous conduire à toutes les catastrophes du monde. Or, l'histoire est un démenti complet de ça. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, alors qu'on nous dit « Ah oui, si le climat se réchauffe, ou s'il y a un peu moins d'eau dans les endroits qui sont méditerranéens, qui vont devenir semi-arides, forcément il y aura des guerres. Alors que l'Égypte des pharaons, Babylone, etc. sont des contre-exemples. Donc ça veut dire que même dans l'Antiquité, compte tenu des moyens techniques qu'on avait, on était capable de construire des sociétés. Et donc ça veut dire qu'il y avait des sociétés qui décidaient autrement que les lois de la nature, qu'on n'est pas dans le déterminisme. Moi, quand j'entends que il va y avoir une guerre de l'eau pour ci, pour ça, je ne comprends pas. Je dis, De Gaulle n'est pas arrivé au pouvoir en France en 58 parce qu'il y a eu le grand hiver 56. Où est-ce qu'on en est ? Les historiens s'arrachent les cheveux, hein. Je vous assure, ce serait heureux que dans les réunions comme ça, il y ait des historiens. Ceux qui étaient à la BNF en ont entendu, mais justement, ils vous montreraient que ce déterminisme-là, ils l'ont abandonné. Et alors, c'est l'histoire des sociétés, mais c'est aussi l'histoire météorologique qui est gommée. Ça veut dire qu'on fait croire qu'on n'a aucune idée du fait que des événements paroxysmiques se sont produits dans le passé. Mais non, on a des banques de données, on a des archives très longues qui montrent que, surtout si, comme dans le futur, c'est ce qui est prévu, il n'y aura pas d'événements paroxysmiques différents de ceux qu'on a connus depuis le passé, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne serait pas capable de s'en sortir si... Alors là, je vous ai mis l'exemple, c'est le pont de Vaison-la-Romaine qui est là. Donc on a une histoire des paroxysmes qui est bien documentée, et à l'époque romaine, on a construit des chenaux, on a sur le Sévéré, on a une canalisation dans la ville, en même temps il y avait des champs d'épandage, à l'amont on a construit des barrages réservoirs, on a canalisé l'exutoire, l'estuaire, et on a prévu des calibrages de ponts en fonction de crues qui sont au-dessus des crues centenales. Bon, peut-être pour faire passer la centurie coûte que coûte, mais en gros, dire que on n'a pas d'archivage, qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas... tout est nouveau, par rapport à ça, pour moi, c'est du déni, là aussi, d'histoire des événements. Donc, voilà, pour moi, on a résolu... Enfin, on a ramené avec des mots donc à quelque chose de complexe, à quelque chose de simplissime. On l'a acculturé, au sens de la culture sociale. On l'a dépolitisé, en dehors du multinational de l'ONU, en la voulant universelle. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième élément, après les mots, les chiffres. Alors, moi, j'ai une formation plutôt scientifique. J'ai... une licence de physique, et alors, mais ce que je constate, c'est que, bon, on enseigne des chiffres, on ne sait même pas d'où ça vient, je trouve catastrophique qu'on n'enseigne plus de métrologie du tout. Voilà, parce que du coup, on se retrouve avec des chiffres fragiles, qu'on interprète tous azimuts, sans toujours se poser la question de que signifie-t-il ? Et est-ce que parfois, quand on compare deux chiffres, on compare bien quelque chose qui relève de exactement le même objet ? Voilà. Et donc, je vous ai mis la phrase de Mark Twain, parce que je trouve que, et on devrait se la mettre souvent dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a des mensonges, des sacrés mensonges et des statistiques. Hein. Ou alors, C'est les chiffreurs. Les chiffres ne mentent pas, c'est les chiffreurs qui mentent. Voilà. Donc, on est sans arrêt asséné avec le changement climatique, avec des chiffres que couperaient, par exemple, les moyennes planétaires. Est-ce que vous savez, vous, qu'il y en a plusieurs et qu'elles ne sont pas strictement identiques? Si on revient aux stations de mesure, est-ce qu'on peut trouver que c'est... que ça a un sens de calculer une moyenne avec des stations météorologiques qui vont mesurer des volumes d'air ou des surfaces terrestres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Regardez les stations là, vous voyez comment elles sont pas écuies réparties. Hein. Vous faites un projet de recherche et vous proposez ça au CNRS ou à Bruxelles, on va vous dire attends, là, il faudrait peut-être ton échantillon, ça va pas. Bon, là, vous avez les compléments sur l'océan et à partir de là, on fait une moyenne. Bon, qu'est-ce qu'elle signifie, cette moyenne? Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais je dis qu'il faut raison garder, c'est-à-dire que la marge d'erreur, elle va être grande. Donc, si déjà la marge d'erreur du thermomètre, elle est de 0,2 degrés, donc si on ajoute à celle du thermomètre une répartition d'échantillons qui n'est pas bonne, que signifie cette moyenne? Voilà. Et d'autant qu'on va récupérer des températures qui sont à moins 90, alors qu'on en a qui seront à 40. Donc, je suis la tête dans le frigo, les pieds dans le four, ou comme je suis bien en moyenne. Oui, sauf que je brûle des deux côtés. Voilà. Donc, il y a un problème. Et là, je parle des températures. Pour le CO2, c'est encore pire. Et les ppm, bon, c'est pas un mystère. C'est qu'on multiplie par 1000 quelque chose qui est très très petit. C'est 0,03 ou 0,04. Voilà, on est passé de 0,03% à 0,04%. Moi, j'ai été surprise qu'on de voir apparaître les ppm, parce que quand je faisais de la climatologie, on n'apprenait pas les ppm, hein, on apprenait les pourcentages. Voilà. Et on s'intéressait plus à l'azote ou à l'oxygène que au CO2.
Ppm, c'est parti par million.
Oui. Donc, c'est une manière de grossir un effectif qui est très petit. Et du coup, pas discuter là, de la marge d'erreur de la mesure. Et là, par exemple, on est à 0,08, hein, probablement, vu qu'on est là dans la salle depuis au moins 2 heures. Donc, deuxième chose qui frappe par rapport à ces chiffres, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir une température moyenne pour une année donnée. C'est-à-dire qu'on n'a que des anomalies. Qu'est-ce que c'est que le fait de passer par des anomalies sans présenter d'ailleurs des écarts-types? C'est une manière de mettre en évidence des changements qui peuvent être très petits. Voilà, vous voulez acheter un pull, le même pull vous le trouvez dans 3 magasins, il va être à 15 euros, 15,10 euros, 14,90. Ah là là, comme ça change, puisque si vous n'interprétez que l'anomalie. Voilà. Alors, pour moi, c'est un peu pervers parce que du coup, là aussi, ça gomme la marge d'erreur qu'il y a qui s'accumule. Parce que quand on va faire des moyennes sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la marge d'erreur, elle va devenir plus importante. Bon, ensuite, alors pourquoi? Et après, ça permet de dire, d'asséner des chiffres comme ça, j'ai dit des chiffres couperets. C'est-à-dire qu'à la COP, après la COP de Copenhague, il est apparu que. Si on dépassait plus 2, alors ce n'est pas les scientifiques hein, du tout, parce qu'aucun scientifique ne vous dirait que c'est juste, mais que si on dépassait les plus 2, alors ce serait la catastrophe, qu'on rentrerait dans des mécanismes atmosphériques qui seraient totalement inconnus, et qu'il y aurait une telle quantité de chaleur dans l'atmosphère que cette chaleur énergie serait uniquement au service de phénomènes paroxysmiques. Ben heureusement que toute l'énergie que le soleil nous apporte ne sert pas à fabriquer des cyclones... parce que sinon, il n'y aurait pas d'humains sur la Terre. Voilà. Donc, là aussi, il y a un chiffre que tout le monde croit sorti de la tête des scientifiques, mais qui n'est pas du tout sorti de la tête des scientifiques, mais qui est sorti de, j'allais dire, hors de la zone officielle de la COP. Et puis, mais le problème, c'est qu'après, à Cancun, le texte l'a repris, ce plus 2. Et puis, à Paris, il en a été question du plus 2. Donc, je dis, c'est... voilà, c'est des chiffres couperets. On a l'air de croire que c'est un seuil au-delà duquel tout va basculer vers autre chose. Ben non, c'est jamais démontré. Ensuite, c'est des chiffres slogans. Moi, ça me fait rire quand j'entends dire... Alors, quelquefois, c'est... Là, je l'ai fait exprès de vous le mettre là. C'est-à-dire que c'était en octobre 2015. En octobre 2015, on annonçait déjà que l'année 2015 serait la plus chaude ou la xème... Bon, ça fait rire puisqu'il y avait encore novembre et décembre à courir et que... bon. Donc, comment c'est possible de faire cette espèce de course, quoi, à montrer qu'on est dans les années les plus chaudes. Ce qu'on peut dire, c'est que, là aussi, vous voyez, troisième année la plus chaude depuis 1900. Ben oui, s'il y a une hausse de température, forcément, les années... C'est une manière, c'est un énoncé qui est trompeur. C'est-à-dire que ça sert, et là, c'est très clair, depuis, on l'utilise beaucoup depuis 1998, à cause du palier, qu'on ne sait pas... très bien expliqué, ou qu'on ne peut pas énoncer, à savoir que les températures, alors que le CO2 continue d'augmenter de 3% par an, la température, elle s'est stabilisée depuis 1998. Donc, ce qu'on appelle le palier ou le plateau, ou tout ce que vous voulez. Hein. Pour ne pas énoncer ça, on va dire que telle année est, évidemment, comme on est dans une phase de réchauffement après la sortie du petit âge de glace, forcément... on est toujours dans la dixième année la plus chaude depuis, huitième année la plus chaude, douzième année. Mais c'est une manière de gommer le contenu.
Gaïa est en train